comme une pensée d'introduction, je voudrais que vous tourniez Apocalypse chapitre 5. 1, 2, 3, vous m'entendez? Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Digne l'agneau. La grande société dans le futur. On est au ciel. Christ est au milieu de nous, là. Et on reconnaît très clairement qu'il y a une seule raison pour laquelle on est au ciel. C'est parce que il était l'agneau immolé. Avec son sang, il nous a rachetés. Ce matin, on va parler des âmes perdues. Les gens qui sont perdus. Et ça, ça va être dans le contexte d'être sauvé. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Nous sommes à Baltimore le dimanche 25 avril. Passe chaleur, prêche. Ils chantèrent un chant et disaient, « Tu es digne d'ouvrir le livre et le sceau, car tu as été immolé et tu nous as rachetés envers Dieu par ton sang. » De chaque tribu, de chaque langue, des peuples et des nations. Ça, c'est au ciel. Les 24 anciens, ils disent ceci. On reconnaît que la raison pour laquelle on est là, c'est le sang qui a fait l'expiation pour nous. Il a lavé nos péchés et il nous a réconciliés à notre Dieu, à Dieu. Dieu nous a fait, il nous a créé envers Dieu, envers notre Dieu. Il nous a fait des prêtres et des rois, et on va régner sur la terre. Vous savez, lorsque l'on pense à un désastre dans cette vie, je ne sais pas quel désastre vous avez vu à la télévision, parfois. Il y a des navettes spatiales qui explosent dans le ciel. Vous vous rappelez ça, il y a longtemps. Là. Ça a brûlé, les astronautes ont été perdus. Une navette spatiale, c'était un désastre. Un bateau qui fait naufrage sur la plage. Peut-être vous avez vu ça. Un naufrage. Le fond du bateau qui arrachait tous les containers qui flottent, les gens qui flottent sur l'eau et qui sont balayés et envoyés sur la plage par les vagues. Et c'est un désastre. Tchernobyl, un désastre nucléaire. La pandémie, une année plus tard ici. Combien de millions de gens ont été perdus? C'est un désastre. Une perte de vie terrible, un désastre. Mais en fait, lorsque l'on chante ce chant au ciel, ou lorsqu'on dit ces choses-là, et on réalise, mon âme a été sauvée. Nos âmes ont été sauvées. Quel désastre lorsqu'une âme est perdue. Ils ne sont pas là au ciel. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont partis. Ils sont en enfer. Il y a un ciel et il y a un enfer. Lorsqu'un bébé est né, tu regardes ce bel enfant, tu penses au futur de l'enfant, mais sans dire le mot, souvent, les gens disent, parfois, quel bel enfant. Oui, on peut dire. Et une belle âme. Cet enfant est une personne là qui va vivre pour toujours. Quelle belle âme. Les gens ont des âmes. Que profiterait-il à un homme s'il gagnait le monde entier, mais s'il perdait son âme? Ce désastre ne peut pas être comparé à la pire des choses qu'on peut imaginer, de perdre mon âme. Je crois que la vie est bien plus que ce que l'on peut voir. Je crois qu'il y a un Dieu vivant qui nous aime et qui est mort pour nous et qu'il a répandu son sang pour nous afin que l'on puisse aller au ciel. Je crois que ce Dieu vivant qui est si gentil, si gracieux, et il appelle tous les êtres humains, toute âme qui a jamais vécu sur la terre, il prend soin d'eux, il les a aimés, il veut les guider. Mais quelle chose horrible de perdre mon âme. Pas un croyant, on ne perd pas notre âme, mais pour une personne, de perdre son âme. Ça va être notre thème, et c'est un peu sobre, je sais, mais tu viens à l'église, tu peux entendre la Bible, et tu peux penser à ça, et tu peux demander à Dieu, et toutes les églises, partout qui prêchent la Bible, qui enseignent que Jésus-Christ est la réponse pour le cœur humain. Le seul sauveur, le seul Dieu sage, il n'y a qu'un sauveur. Nous sommes maintenant au mois d'avril, on va vers le mois de mai, la remise des diplômes dans ce mois-ci, au mois de juin aussi, on a d'autres choses qui se passent. La conférence spéciale la dernière semaine du mois de juin, on va la voir, cette conférence, convention par la grâce de Dieu. L'an dernier, on l'avait annulée à cause du Covid, mais on a eu à la fin de l'été. Maintenant, on revient, on est dans notre emploi du temps, et nos frères et nos sœurs d'Amérique qui vont venir, et peut-être Outre-mer aussi, on va voir comment ça se passe. Il y avait un mariage hier, Alex et Rebecca, de la famille des Wilczek se sont mariés hier. C'est bon de les avoir avec nous, la famille Wilczek de Tennessee. J'ai demandé à pasteur Drew Wilczek de dire quelques paroles et de prier pour l'offrande. Souhaitez-lui la bienvenue. J'étais dans un endroit en ville, au centre-ville, là, pour les sans-abri. Ça s'appelle la mission pour aider les sans-abri, les nourrir, leur donner un toit. C'est une facilité pour aider les hommes, ceux qui sont accrochés avec la drogue, qui ont des problèmes d'alcool. Et l'église de Federal Hill, notre église en ville, vendredi soir, ils font une étude biblique. Son fils, Justin, il fait l'étude biblique le vendredi soir. Je suis allé là plusieurs fois. J'ai rencontré des hommes, il y a un bon. Il n'y a aucun doute que Dieu travaille dans leur vie. Je suis enthousiasmé de voir, ils veulent être baptisés, ils ne savaient pas où aller. Je leur ai dit, on peut faire ça à notre église. L'organisation, ils ont une chorale aussi, des hommes qui chantent. Un dimanche soir, un jour, ils vont être nos invités. On va les baptiser. Une des illustrations que Justin a donnée à l'étude biblique, je me rappelle, c'est revenu à ma pensée. On avait appris ça en Israël avec Pasteur Ben, un cowboy américain qui est allé en Israël, dans un pèlerinage, pour aller voir. Le cowboy parlait, il voulait voir le lieu saint. Il parlait avec Pasteur Ben au propos des chevaux. Comment tu domestiques les chevaux? Tu vas être méchant avec le cheval et le battre. Et monter sur le cheval de cette façon-là, pour le domestiquer. Tu peux faire ça aussi d'une façon différente aussi. Il a fait déjà. Il va avec le cheval, avec de la nourriture dans sa main. Il fait pas le contact avec les yeux avec le cheval. Il s'agenouille et il met sa main en haut. Il donne la nourriture comme ça. Et le cheval est curieux et social. Mais le cheval est effrayé. Il peut être méchant, il peut être coléreux, mais peut-être il peut manger dans la main du cow-boy. C'est une autre façon de domestiquer. C'est une pratique ça qui tu refais. Éventuellement, il peut le toucher, sa bouche. Là. Ça peut marcher éventuellement. Tu peux mettre sur lui une selle et tu peux monter le cheval. Lorsque tu casses le cheval, de cette façon, tu le domestiques. L'autre façon, il est peut-être domestiqué de la façon méchante, mais il peut rester méchant, le cheval. Il peut rester dur. Mais de l'autre façon, c'est les gens, on aime entendre ces histoires-là, parce que j'ai été méchant et rebelle et colérique avec Dieu. Et Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe, « J'ai étendu mes mains toute la journée, mais vous avez été un peuple rebelle. » Vous, lorsqu'on voit Christ avec son humilité, on croit que l'approche que Dieu a eue envers nous, c'est similaire à l'approche que ce cow-boy a eue avec le cheval d'une façon douce, de s'agenouiller et de mettre sa main élevée avec la nourriture. Je veux que tu me connaisses, que tu apprennes à me connaître. Je suis le seul dans le monde entier qui t'aime. Je suis celui qui peut faire une différence. Je suis celui avec qui tu es en colère. Tu es méchant. Tu m'as ignoré. Tu es resté éloigné. Tu as suivi ta propre façon. Tu as vécu ta propre vie. Et parfois, c'est tout ce que tu... C'est uniquement ça que tu connais, que tu sais faire. Et c'est peut-être que tu pourrais perdre ton âme. Tu n'as rien. Toi et ta méchanceté et ton propre égoïsme. Et moi, je suis venu pour te sauver. Je suis celui, tu as besoin de moi. Tu as besoin d'apprendre ma parole, d'écouter mon cœur, de me faire confiance, de marcher par la foi à moi. Parce que je t'aime. Tournez dans notre texte, dans Luc 16. Verset 19. On va lire cette histoire historique. C'est historique parce qu'il y a des noms communs. Lazare, c'est une personne historique. Lorsque Christ a dit la parabole, il n'a pas utilisé des noms communs, des vrais noms. Un père avait deux fils. Un roi a donné des talents à ses serviteurs. Mais ici, c'est historique. Verset 19. Il y avait un homme riche. Qui était habillé avec du pourpre et des habits de fin, de linen de qualité. Il faisait des fêtes chaque jour. On peut changer les mots, on peut prendre la liberté avec le texte d'exprimer. Il y avait un certain homme qui était très occupé avec des machines, peut-être de la technologie, peut-être du confort. Il voyageait beaucoup, peut-être. Peut-être il avait beaucoup de maisons. Il était occupé avec Netflix, les films et l'amusement. Il travaillait autour du monde. Un certain homme, il était très occupé avec sa vie, d'une certaine façon. Mais ces choses-là qu'il avait dans sa vie l'ont aveuglé. groupes l'ont aveuglé à propos des choses plus profondes, des choses plus sérieuses. C'est quoi la signification de la vie? Pourquoi est-ce que je suis ici? Est-ce que personne n'en a dit rien ou quoi que ce soit à propos de la philosophie, de la théologie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un miracle quelque part? Est-ce qu'il y a un message de Dieu dans le ciel? Est-ce qu'il se passe quelque chose qui a aiguisé ma curiosité vers les choses plus profondes, qui a éveillé ma curiosité? Peut-être pas. Peut-être mon style de vie m'empoisonne. Peut-être je suis accroché avec les filles, les femmes. Et la vie que je connais, l'amour, mon bonheur, ça m'aveugle, peut-être, ou ça m'empoisonne. Ou d'une autre façon, d'une façon intéressante, ça paralyse, ça hypnotise mon âme. J'ai entendu parler des gens qui mangent beaucoup de nourriture, ils mangent beaucoup, mais ils ont rien de nutritif. C'est de la nourriture vide de calories. C'est comme les gens qui vivent dans ce monde, peut-être un exemple. Beaucoup de nourriture, mais il n'y a rien de nutritif pour leurs âmes. Il y a un aveuglement, ou bien ils sont affamés, starving. Leurs âmes sont affamées. Je vais en Floride, une autre famille qui va au Texas, ils vont dans le monde entier, mais en fait, je suis affamé. Il n'y a aucune nutrition pour mon âme dans ces choses-là. Aucune connaissance de Dieu. Aucune question importante, les questions importantes. Cet homme, lisons le verset 19, un certain homme riche, il était habillé, avait des pourpoints, avait des vêtements de soie, de linen, l'éducation, la puissance, les bons boulots, les gens. Il ne parle jamais du salut. Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas de salut? Il y a une seule bonne raison. Ils ne connaissent rien à propos de ça. La Bible nous rend sages par rapport au salut. Nous sommes le peuple qui parle du salut, les gens qui parlent du salut. Tu te rappelles? Jésus a dit à ses disciples, avec les 12 qui restaient avec lui, Jésus a dit, vous allez partir vous aussi? Pierre a dit, où est-ce qu'on va? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il ne parle pas de ça au club de gymnase, au club de santé, ou bien dans les bars, ou bien là où ils font dans les théâtres, les comédies, ou dans le voisinage, ceux qui font des barbecues derrière la maison. Il ne parle pas de ça. Nous, on parle. On en parle. On parle de la vie éternelle. On parle d'avoir ça. Je suis levé pour une marche avec ma famille. Je parlais à propos de la ville de Dieu dans le ciel. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est vraiment là? Elle m'a dit, bien sûr, je sais. Et je lui ai dit à ma femme, bien sûr, on sait ça, bien sûr, on parlait. Bien sûr, si je pars avant toi, je te rencontrerai à la porte du sud. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'il y a un gars dans une autre ville là-bas, Havre de Grace, un jour on évangélisait, Havre de Grace, il m'a dit que sa femme était décédée. Et je lui ai dit, avant qu'elle soit décédée, je te rencontrerai à la Nouvelle-Jérusalem, à la porte du sud. C'était doux, ça. C'était mignon. Est-ce qu'il y a une ville, la ville de Dieu? Le constructeur et l'architecte, c'est Dieu. Il a les fondations. Il y a des fondations. Et nous, on va aller à cet endroit. Qui parle de ça? Nous, on en parle. On en parle parmi nous. On parle, nos grands-enfants, nos petits-enfants, nos voisins dans la maison, partout où on va, on en parle. Ça aussi approprié. Dieu met ça dans notre cœur. Mais cet homme-là, dans l'histoire, il est comme beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes. Cet homme, il n'en parle jamais. Il ne connaît rien à propos de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas rencontré un d'entre nous? Tu sais? En principe, on dit ça. Peut-être il a rencontré. Peut-être il n'a pas écouté ou entendu. Lisez le verset 20. Il y avait un certain mendiant qui s'appelait Lazare. Il était putréfié, il avait plein de boutons sur lui. Il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens venaient lécher les blessures et toutes ces du mendiant. Quel genre d'homme était ça, Lazare, là? Je dis qu'il était pauvre et ses souffrances ont provoqué en lui des questions à propos de la vie. Pourquoi est-ce que ça se passe envers moi, ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Il doit y avoir un Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la vie à propos. Ma vie peut être courte, peut-être. Je souffre. Pourquoi est-ce que les chiens lèchent mes blessures, là? Pourquoi je n'ai pas assez suffisamment à manger? Je crois en Dieu. Quelqu'un marchait par moi l'autre jour et m'a dit à propos de Dieu. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit. J'ai cru ce qu'ils ont dit. J'ai cru que c'est la façon dont cette vie est, c'est comme ça. Bien que je souffre, les souffrances sont utilisées pour moi d'avoir un cœur ouvert pour penser à des choses plus importantes que cette vie ici. Cette vie, peut-être, ce n'est vraiment pas si important. Si je souffre, j'ai quelque chose qui va m'attendre, quelque chose qui se passe. Non pas que mes souffrances me méritent quelque chose, non. C'est juste que mes souffrances m'ont ouvert ma pensée, mon esprit. Et je me suis posé la grande question. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Où est-ce qu'on va? Ce n'est pas dans l'histoire, là. Mais Jésus dit, il y a une grande différence entre ces deux personnages. Un entend et l'autre n'entend pas. L'autre, un croit et l'autre ne croit pas. Un entend, mais il écoute en fait, et l'autre n'écoute pas. Verset 22, le mendiant meurt. Il était porté par les anges dans le sein d'Abraham. Combien de temps ça lui a pris? Les anges étaient là. Ils portaient le mendiant. On ne sait pas à propos le temps que ça a pris, mais on pense que les anges étaient là, et lorsque le temps est arrivé, ils nous prennent et nous emportent, on n'est pas seul. Les anges l'ont pris dans le sein d'Abraham. Les anges sont envoyés par Dieu, parce que cet univers est spirituel. Pas uniquement matériel, on est très bon aux choses matérielles à nous, mais les choses spirituelles, on est faible, spécialement dans notre pays, ici. Les choses qui se passent maintenant dans notre pays, c'est pour nous de se réveiller et de réaliser que l'argent, la puissance, les influences et beaucoup de gens, toutes sortes de choses qui se passent autour de nous, toutes les façons de penser, ainsi de suite, ça nous alerte, ça nous réveille. Et on dit, Dieu, on a besoin d'anges, on a besoin d'hommes justes et de femmes justes. On a besoin d'un message. On a besoin des pères, des papas qui vont enseigner leurs fils et leurs filles. Des mamans qui vont prier, aimer, apprendre et demander la sagesse pour être dirigées dans des temps difficiles. On ne peut pas dépendre sur nos machines, notre technologie, les médias sociaux et ce que le monde dit. Ils n'élèvent pas nos familles, eux, non. On a besoin du Saint-Esprit qui élève nos familles. On a besoin du Saint-Esprit qui répond nos prières. Le Saint-Esprit qui parle au cœur de nos fils et de nos filles, et de nos frères et de nos sœurs. On a besoin du Saint-Esprit qui parle à l'Église. Le Saint-Esprit qui ouvre la Bible et qui parle, parce que il y a des âmes perdues autour de nous. Et c'est un désastre d'une grande magnitude. Le verset suivant, s'il vous plaît. L'homme riche mourut aussi. Il fut enterré. Verset 22. Le, Le cimetière, ce n'est pas là où ça se termine. Ça ne se termine pas au cimetière. Personne n'est là dans ce corps. Il n'y a plus personne dans ce corps. La personne là est partie. Le corps est enterré, mais la personne n'est pas là vraiment. L'homme riche est en enfer. Verset 23. Il leva ses yeux, étant tourmenté. Où est-ce qu'il a mis ses yeux? Je pensais que son corps était enterré, mais d'une certaine façon, il était en enfer. Et il leva ses yeux en enfer. Il vit Abraham de loin. Et Lazare dans le sein d'Abraham, il vit. Il cria, il dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi. Envoie Lazare qui puisse tremper son petit doigt dans l'eau et me donner un petit peu, m'abreuver sur de ma langue. Je suis tourmenté ici. Il semblerait qu'il allait dire, fais-moi sortir d'ici. Je pense que c'était clair pour lui qu'il ne pouvait pas sortir de là. Il n'avait pas cet espoir. Je peux pas m'échapper d'ici, mais est-ce que je peux avoir une goutte d'eau sur ma langue? Je suis tourmenté dans cet endroit. Abraham dit, fils, rappelle-toi que dans ta vie, tu as reçu les bonnes choses. Tu as reçu les bonnes choses. Lazare a reçu les mauvaises choses. Il est conforté et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tous, entre nous et toi, il y a un grand gouffre, un abîme. Ceux qui passent d'ici à toi ne peuvent pas. Personne ne peut passer de toi à nous. Non plus. Aucun changement de location, d'endroit. C'est fixe. Tu ne peux pas changer, bouger, d'aller ailleurs. Tu ne peux pas imaginer ce que ça signifie. Mais on peut imaginer. Tu as été perdu momentanément. Tu es perdu. Imagine ça, c'est pour toujours que tu es perdu. Ça, c'est la plus grande tragédie dans l'univers entier. Une personne qui est faite avec une âme et ils sont perdus. Ils ne peuvent pas être changés. Dans notre vie, on change tout le temps, on change. Vendredi, samedi, dimanche, on a toujours de l'espoir dans notre vie ici. On change, on a l'espoir. Mais pas lorsque l'on est décédé. Notre corps, on va dans l'éternité, mais on peut plus changer. Au verset 27, il est écrit, on va lire, je prie que tu l'envoies. Envoie quelqu'un à la maison de mes pères. S'il ne peut pas venir ici, m'amener un petit peu de l'eau, Lazare, Abraham, peux-tu l'envoyer à la maison de mon père, de ma famille? C'est droit. Ses frères. J'ai 5 frères. Verset 28. J'ai 5 frères. Afin qu'ils puissent leur témoigner. Quelque chose doit se passer. J'ai 5 frères. Quelque chose doit se passer afin qu'ils ne viennent pas ici. Parce qu'ils pourraient. Quelque chose doit se passer pour eux. Pour mes 5 frères. Mais tu sais, lorsque je vis de ma façon à moi, nous sommes tous le même. Je suis le même. J'ai ma vie comme je connais ma vie. Mais lorsque Jésus vient, il est humble, comme ce cow-boy, il vient, il s'agenouille, et il dit, en fait, tu as besoin de moi. Tu ne réalises pas, mais tu as besoin de moi. Si vous me recevez, si vous me croyez, je te parlerai, je t'utiliserai, j'ai besoin de toi dans ce monde. pour me représenter dans ce monde, pour dire aux gens de ce monde que Dieu est un bon Dieu. Dieu n'est pas mon ennemi, Dieu est mon meilleur ami. Dieu donne la grâce. Dieu est patient, Dieu est gentil. Et j'aime Dieu, Dieu est bon. Dieu te donne le pardon, la vie éternelle. Le pardon pour toutes choses. J'ai lu quelque part pour un exercice, je comptais 15 heures par jour, 2 péchés par heure, 30 péchés, quelqu'un qui pêche. Il a calculé ça à quelqu'un. 100 000 péchés en 10 ans. C'est très petit. Non, de la façon dont je vis, c'est très petit ça par rapport à ce qu'on... Les péchés avec ma bouche, je pêche avec des pensées, les péchés que je fais. Il y en a tellement de péchés que je commets. Il y en a tellement. On parle de millions de péchés. Et combien d'entre eux sont pardonnés? Tous. Tout ça. Tous les péchés sont pardonnés. Est-ce que Dieu vient à toi comme ça? Il s'agenouille devant toi, tête baissée, et sa main élevée, il te dit, je t'aime, je te pardonne de tes péchés, viens à moi. Fais-moi confiance. Je suis pour toi, pas contre toi. Je pense que le ciel, c'est une continuation de cet Esprit de Dieu incroyable, en continuité, qui va nous servir pour toujours et pour toujours. Il pardonne et il pardonne. Lorsqu'on quitte notre corps, on va quitter notre nature pécheresse, bien sûr. On ne va plus pécher pour toujours et toujours et toujours. On ne va plus jamais pécher, pas une seule fois, parce qu'il nous a donné Christ, qui est sans péché. Seigneur, ta gentillesse nous a rendus grands, psaume 18. Ta bonté nous dirige à la repentance, nous amène à la repentance. Il y a des gens qui aiment la prédication dure, crier, prêcher, de dire aux gens quoi faire et ne pas faire. Je sais pas. Avec ce genre de ministère-là, moi je pourrais pas survivre 2 années, peut-être 3. Je m'en saurais pas sortir. J'ai besoin d'un autre genre de ministère. Un ministère où j'ai appris à apprendre qui Dieu est. Et cet amour, c'est ce qui m'attire dans mes jours les plus faibles, mais mon heure la plus difficile, j'ai besoin de quelqu'un qui me montre que Dieu est si gentil et si bon et qui pardonne, et ça brise mon cœur. Et que je l'aime lui parce qu'il m'aime. Pas parce qu'il est un vieil homme dur et il est en colère avec moi. Il est un sauveur qui m'aime. Il est si gentil, il est si humble que la bonté de Dieu change ta vie. Non pas greater grace, non pas d'aller à l'église, non pas la Bible qui du point tu tapes sur le pupitre. Le Dieu de la Bible, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui donne la miséricorde. Bien sûr, j'ai besoin d'une prédication dure parfois, mais derrière la prédication dure, il y a le Dieu qui est pendu à la croix et qui dit, Père, pardonne-leur. Tu sais ce que c'est ça? Vous savez, oui. Donc, terminons. Chapitre 16, il est dit, au verset 28, j'ai 5 frères. Envoie-le là. Qui puissent leur témoigner, afin que eux, à moins qu'ils ne viennent pas dans cet endroit de tourment, afin qu'ils ne viennent pas. Pasteur Shibeli, il est revenu d'Afrique, il est avec nous, il est rentré d'Afrique, donc c'est bien de l'avoir. Je me rappelle une fois, il a dit, une jeune fille dans un bar lui a dit, Dieu t'aime, elle a disparu. Il a pensé que c'était tellement étrange, mais cette jeune fille a eu le courage d'aller dans ce bar et de lui dire cela, que Dieu t'aime. Il y a des choses qui peuvent se passer de cette façon-là, là où tu travailles, des gens aussi, dans la cafétéria. Tu manges ton repas du midi, ou à l'extérieur, ou après. Il doit y avoir un message. Parce que sinon, ils peuvent aller dans cet endroit-là, en enfer. Ils peuvent aller là, les gens. On est concerné à propos de nos familles, bien sûr, qui ne font pas partie de notre foi. Les membres de famille, comment on peut les atteindre? On est concerné. On prie. Dieu va nous aider. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Peut-être ils auront un rêve.
Un rêve.
Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un leur donnera le message afin qu'ils ne viennent pas dans cet endroit ici. Verset 29. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent eux. Et lui dit, non, Père Abraham, si un va vers eux, si un sort, ressuscite des morts et va vers eux, ils vont se repentir. Peut-être pas. Verset 31, il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas, seront-ils persuadés si quelqu'un ressuscite des morts? J'habitais en Budapest, en Hongrie, moi. Un frère, il est de là-bas, de la Hongrie. J'étais dans une ville, un endroit, une station, une gare de train, Nugati, à Budapest. J'évangélisais dans la rue. Ce jeune homme me dit, il parlait anglais. Il m'a parlé, il dit, la Bible n'est pas vraie. Je lui dis, oui, elle est vraie. Je peux te la prouver. Il a dit, non, tu ne peux pas. Oui, je peux, je lui ai dit. En 40 minutes, je peux te prouver la Bible. Donne-moi 40 minutes de ton temps. Tu ne peux pas. Je peux, je lui ai dit. Je lui ai dit, demain, tu as le temps demain? À 4 heures l'après-midi, comme maintenant, sur même heure, on va se rencontrer à McDonald's. Il a dit, ok. Je suis allé là-bas, le lendemain, à 4 heures à McDonald's. Il est venu. J'étais surpris qu'il est venu. Mais il est venu. On s'est assis à McDonald's. En 30 minutes, les larmes coulaient sur ses joues. Il était choqué. Il ne peut pas croire que la Bible est vraie. Il est devenu mon traducteur. Il est venu à l'église. Il est devenu mon traducteur pendant des années. On a fait un accord ensemble. Chaque fois que je vais en Hongrie, on va visiter cet endroit à McDonald's pendant 5 minutes. On se rencontre chaque fois que je visite l'Hongrie. Il ne veut pas oublier et perdre. Il y a 27 années plus tard, on s'était rencontrés. Il y a 27 années de ça, on s'était rencontrés. Il y a quelques années de ça. Il y a 30 ans, ça s'est passé. Et lui, il écrit ça chaque fois, afin de ne pas oublier. Il s'est marié avec une croyante dans l'église. Il a eu des enfants. Ils sont devenus croyants. Il sert et il marche par la foi. Il apprend. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un ne va pas dans cet endroit-là, en enfer. Ça n'a pas pris un homme qui était ressuscité de mort. Ils ont pris Moïse et les prophètes. Et quelqu'un comme vous et moi, on peut ouvrir la Bible et on peut dire, laisse-moi te montrer cela. Tu ne crois pas? Laisse-moi te montrer ceci. Comment ceci? Et c'est à propos de ça. Comment ça peut se passer? Ils ne se connaissaient pas, l'un et l'autre, et ceci et cela. Laisse-moi t'expliquer cela et cela. Et Moïse et les prophètes, c'est tellement clair. Le monde ment tout le temps que la Bible est un vieux livre juif. Ils font tout ça dans les universités. Ils prennent la Bible, ils enlèvent la Bible des gens. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit, venez à moi, je vais vous montrer, je vais vous enseigner, je vous donnerai la grâce, je vous donnerai la vie éternelle. Le sang de mon Fils a expié pour vos péchés. Des millions et des millions de vos péchés sont pardonnés. Et moi, je suis votre sauveur. J'ai préparé un endroit pour vous, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je suis la réponse pour vous. S'il vous plaît, dans ces jours dans lesquels on vit, soyez alertés, réveillez-vous pour votre dessein sur la terre. Les temps sont courts. Un autre frère est décédé. Chaque jour, de façon régulière, nos frères et nos sœurs sont décédés, ils passent à l'éternité. On a ce grand ministère de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, on le passe dans le cœur des autres personnes. On est ici dans ce monde pour cette raison. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes. Chaque jour, ils sont habillés de pourpre, ils font la fête, ils vivent une bonne vie, ils sont aveuglés, empoisonnés, et n'ont pas rien n'est nutritif pour les choses importantes de la vie. Il y a des gens qui vont à l'église, n'abandonnez pas l'assemblée. Rapprochez-vous, apprenez, partagez votre foi. Grandissez et partagez votre foi. Amen.